France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des familles ce samedi dans Plan large avec Hélène Merlin et Mike Lee et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Sujet inépuisable, évidemment, que la famille au cinéma, d'autant que ce qui fait famille derrière le foyer, l'affection et les fêtes, c'est souvent une bonne dose de souffrance et de non-dit, qui plus est quand les dites familles sont dysfonctionnelles, mais ne le sont-elles pas toutes un peu? Preuve de la santé inaltérable de ce motif, deux cinéastes au debout d'une carrière, une jeune pousse d'un côté, dont c'est le premier long métrage, un vieux maître de l'autre, dont c'est le 14e, en font cette semaine le cadre de leur film où le tragique ne tarde pas à surgir sous un comique qui frise parfois la folie. Le vieux maître, c'est Mike Lee, dont sort enfin en France le nouveau long métrage Deux Sœurs, après avoir été inexplicablement rejeté par les comités de sélection de tous les grands festivals l'an dernier. 30 ans après Secrets et mensonges, il y retrouve la géniale et sidérante actrice qu'est Marianne Jean-Baptiste. Il nous racontera tout à l'heure quelques-unes de ses méthodes de fabrication. La jeune pousse, c'est Hélène Merlin. Sa voix vous sera peut-être familière. Elle a exercé dans cette maison à France Musique et sur Move il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, c'est justement le temps qu'il lui a fallu pour réussir à mettre à l'écran Cassandre, une jeune fille de 14 ans qui lui ressemble, puisque son histoire lui a été inspirée par la sienne, par la famille joyeusement baroque et pleinement dysfonctionnelle pour le coup, dans laquelle elle a grandi, et par l'inceste dit adelphique entre frères et sœurs qu'elle y a subi. Comment mettre des images, des paroles et des sons sur ce qui est déjà difficile à raconter et plus encore à faire entendre, c'est ce que nous allons voir avec elle dans un instant. En fin d'émission, Mathieu Macheret reviendra sur une période charnière de l'histoire du cinéma et le premier pas d'un futur maître du suspense, j'ai nommé évidemment Alfred Hitchcock, à l'occasion de la ressortie de 10 de ses films réalisés en Angleterre, à cheval entre le muet et le parlant. Mais pour l'heure, tout commence donc en famille, autour et sur la grande table du salon.
Oh, mais les détentes interviennent, il faut au moins 5 mm.
Eh, t'imagines, tu tombes de cheval, tu vas à l'hosto, et il y a tous les pompiers et les médecins qui voient tes poils. Ah oh, non, mais la honte.
Je te rappelle que le go est un jeu de conquête de territoire. Contrairement aux échecs, ils sont un jeu de conquête de pouvoir.
Je sais.
Si tu le sais, pourquoi tu la poses là, ta pierre ? Tu dois dissimuler ta stratégie, consolider, anticiper.
Aïe, mais ça fait super mal.
Oh, et oh, arrête ton char.
Ouais.
Tu veux pas une péridurale non plus? On dirait ma mère avec ses simagrées.
Et quand tu penses que ses parents venaient de mourir dans un bombardement, et elle a 15 ans, elle peut pas s'empêcher de faire du grog à son tuteur, et paf, en cloque. T'imagines? Oh, la bonne femme du tuteur, avec cette orpheline sur les bras, l'aînée en cloque et la petite Dédé qui n'avait pas 3 mois. Heureusement que mon père est passé par là. Hein. Il était bien gentil d'épouser ma mère.
Tu vois, ma pierre, quand je la place bien, elle peut tout faire. Elle peut vivre, tuer, fuir, enfermer, construire, frapper là où ça fait mal, se sacrifier si la cause est juste. Elle a du caractère, des aptitudes, elle.
Après moi. Au secours! Mon père a été bien gentil quand les petites sœurs de ma mère ont débarqué à la maison au début de la guerre. Lui s'occupait de mes tantes. Et ma mère, elle s'occupait de nous. Mais lui, il était très gentil, hein, comparé à elle. Il les réveillait en douceur. Il les accompagnait à l'école avec un goûter.
Etc, etc. La parole dans cette famille, ça n'en finit jamais, on y reviendra. Bonjour Hélène Merlin.
Bonjour.
Autour de la table, dans ce manoir qu'on devine angevin, la mère et puis la fille, en débitant des anecdotes familiales plus ou moins salaces, pendant que le père joue une partie de go avec son fils, énième occasion pour se désoler de sa médiocrité supposée. Précisons que la jeune fille s'appelle Cassandre, qu'elle donne son titre au film, et qu'elle est allongée sur la dite table, les jambes écartées, jamais assez pour sa mère, et qu'elle se carapate tout de même au moment où on veut veut lui faire le maillot. C'est ce que les spécialistes appelleraient d'emblée un climat incestuel, Hélène Merlin. Et c'est une scène qui est à la fois drôle et formidablement malaisante pour le spectateur. Et vous jouez sans cesse de ces deux tonalités.
Oui, tout à fait. C'était important pour moi que le spectateur ne soit pas affligé par le sujet du film, par ce qu'on y raconte, et qu'il y ait vraiment des moments de respiration par le rire et aussi avec les chevaux qu'on découvre plus tard dans le film. Ce que je trouve très intéressant dans l'extrait que vous avez choisi, c'est qu'on entend vraiment la mise en scène polyphonique des voix, comment elles se superposent et comment tout ça s'entremêle, et je trouve que ça raconte très bien le film.
Alors précisément, cette polyphonie vient du fait que la famille est assez hétéroclite. On a cette mère fantasque au langage fleuri, on dira, ce père autoritaire, péremptoire, volontiers complotiste à 16 heures, un fils écrasé, infantilisé et très malaisant. Et c'est une fille, cette Cassandre, qui est obéissante mais combative. Et c'est autant de styles différents, autant de styles de jeux différents, comme si vous preniez des acteurs qui viennent d'écoles complètement différentes. Eric Ruff, comédie française, Zabou Breitman, la carrière qu'on lui connaît. Vous avez joué justement sur c'est ce que vous appelez cette polyphonie.
Oui, tout à fait. Zabou Breitman et Eric Ruff, évidemment, ont un parcours théâtral incroyable. Zabou aussi au cinéma, c'est des gens qui ont une technicité dingue aussi, dans un amour de la langue, un amour du jeu. Et donc, ils se sont vraiment emparés de leurs personnages très ambivalents, paradoxaux, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. C'était très, très, très joyeux, en fait, de travailler avec eux. Et après, effectivement, Billy Blin vient plus du cinéma, et donc elle a un jeu beaucoup plus animal, beaucoup plus sauvage, physique, ouais. Beaucoup plus physique, beaucoup plus intérieur. Et Florian, on va dire, est un peu entre les deux. Florian Le Sieur qui joue le frère parce qu'il a travaillé en télé avant, mais il fait ses premiers pas aussi au cinéma. Et c'est un acteur qui est aussi qui a beaucoup de technique et qui est très sensible, très fin aussi. Mais je trouve que ça fait une famille haute en couleur avec beaucoup de relief, et c'est ça qui m'intéressait.
Précisément, comment est-ce qu'on fait pour créer une famille à laquelle on croit au cinéma? Parce qu'on peut l'écrire, on peut écrire des dialogues très musicaux, comme on les entend, mais enfin, pour que ça soit crédible comme famille, recette de cinéaste débutante, Hélène Merlin?
Moi, j'ai un amour des dialogues, j'ai un amour de la direction d'acteur, donc je crois que j'ai essayé aussi de les nourrir beaucoup de références, de conversations, et puis ils habitaient dans le même gîte à un moment quand on tournait sur le manoir, donc je sais que le soir, ils répétaient, ils faisaient des italiennes ensemble pour préparer les scènes du lendemain. Ils ont fait famille, on va dire, dans ce gîte. Et puis, c'est des acteurs qui sont aussi très avenants et très à la rencontre de l'autre. Donc je crois que ils ont fait leur petite tambouille entre eux et la famille est belle.
Ils vous ont proposé des choses qui vous ont surprise ?
Oh oui. Déjà, par exemple, les petites figurines en porcelaine que fabrique la mère au début du film, ce sont des figurines que j'ai découvertes chez Zabou. C'est une passion qu'elle a. Et la première répétition que j'ai fait chez elle, j'ai vu ça et j'ai fait « Mais c'est tellement beau, je veux que ce soit dans le film. » Et donc, j'ai attribué à ce personnage cette passion-là. Florian Le Sieur est un rappeur par ailleurs, donc il a un blaze, il fait des EP et tout. Et donc, la scène du rap, il l'a réécrite avec moi les paroles. Et donc, il y a quelque chose, il s'est vraiment emparé du personnage. Et c'est un acteur aussi qui a proposé plein de choses sur le personnage du frère, qui est un personnage difficile à jouer.
On sent la chroniqueuse de Move qui remonte en vous. Ce qui fait que cette famille est hétéroclite aussi, c'est que c'est un mélange à la fois de la tolérance bourgeoise pour la pédophilie. On en parle beaucoup avec Bétaram. On se dit qu'on n'est pas très loin de ce milieu-là. Et aussi, côté du personnage de Zabou Breitman, du libertarisme sexuel post-68. Précisons qu'on est en 1998 dans le film. Vous avez voulu aussi faire une sorte de précipité de la société française.
Oui, tout à fait. Je pense que chaque génération subit les séismes de la génération précédente. Et donc là, précisément, dans ces années 70, 80, 90, c'est l'époque où Mads Neff était reçu à la télé par Bernard Pivot et racontait ses frasques pédocriminelles en rigolant. C'est l'époque aussi où PPDA régnait sur les plateaux de télévision, Depardieu sur les plateaux de cinéma. Donc c'est une époque qui est très, très imprégnée, effectivement, du post-mai 68, d'une culture du viol où même, les films, la littérature étaient imbibés de ça, en fait. De représentation de la femme, d'hyper-objectivation de la femme, de hyper-sexualisation des femmes de manière générale, des adolescentes et des petites filles. Donc c'était vraiment témoigner de cette époque-là, de se dire, ok, en fait, quel regard on porte sur cette époque et qu'est-ce qu'on doit changer, en fait, qu'est-ce qu'on doit réparer aujourd'hui. Et aujourd'hui, la parole se libère sur tout ça et c'est une bonne chose.
Oui, parce que la parole qui est dite dans le film, c'est plutôt une relativisation générale des souffrances et des sévices infligés aux enfants qui se synthétise aussi dans votre film par ce manoir, par cet escalier où il y a des portraits de famille qui remontent parfois à très loin et on se dit que de génération en génération, on pourrait remonter à la première personne chronologiquement qui est dans cet escalier et ça s'est toujours passé comme ça.
Bah oui, ce manoir incarne pour moi vraiment le poids d'un héritage lourd, le poids du patriarcat, quelque chose qui nous enferme, nous étouffe et cet escalier précisément dans le manoir où il y a effectivement toutes les photos des ancêtres, c'est vraiment le symbole de l'arbre généalogique, on va dire névrotique, avec tous les secrets de famille, tous les accidents de la vie en fait, qui ont traversé les trajectoires des personnages, de nos ancêtres. Et comment en fait ça ruisselle sur nous, comment on est imprégné de ça, on le porte dans nos ADN en fait. Donc c'était marqué aussi l'idée d'une histoire longue, d'une famille sur un temps long, d'une époque, d'une société, et comment bah, les personnages vont évoluer à travers ça en fait.
C'est ce qui fait que même si on est en 1998, on verra la Coupe du Monde de football, c'est vraiment un film en costume, quasiment, parce que ça commence à remonter un peu. C'est bientôt 30 ans, hein, 1998. C'est aussi un film intemporel, mais qui tient du compte. Et vous jouez beaucoup avec ça, non seulement avec ce manoir un peu intemporel, mais Eric Ruff, le père, c'est le père, il n'a pas de nom. Zabou Breitman, la mère, c'est la mère, elle n'a pas de nom. Vous avez joué aussi comme ça avec des archétypes du conte. On parle de loup, notamment.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'était intéressant d'apporter cette distance-là qu'on a dans les contes, de raconter une histoire et de nous emmener et d'aller visiter un peu les enfers et le paradis et de construire les deux décors du manoir et du centre équestre vraiment en opposition. Effectivement, pour moi, la mère, c'est une Cassandre, mais d'une autre époque. Le père est un Philippe d'une autre époque. Ils ont eux-mêmes vécu des violences, ils portent eux-mêmes des traumatismes et parce qu'ils n'ont pas résolu, on va dire, leurs traumatismes et guéri leurs blessures, bah, ils vont en devenir les auteurs ou en tout cas transmettre cet héritage-là toxique. Donc c'était l'idée voilà, de jouer avec la figure du loup, effectivement, la figure de la forêt, quand on voit les jeunes filles traverser en vélo la forêt, c'est l'idée d'une aventure où on va être confronté à des gens qui vont nous aider et à des gens qui vont nous faire violence et comment on va apprendre des choses et s'émanciper.
Alors effectivement, il y a le manoir, on en a parlé, mais heureusement, il y a aussi cet autre espace.
Tranquille, tranquille.
Je vois pas à quoi ça sert qu'on fasse ça, ils m'écoutent pas.
T'es sûr que c'est pas l'inverse? Quand on est là-haut, on croit souvent qu'on doit les soumettre, mais à pied, ça change un peu la perspective, non? C'est un rescapé des corridas. Si tu lui mets la pression, il va s'énerver. Sois à l'écoute. Respectueuse. Sinon, il pourra pas coopérer. Respire.
On ne sait pas trop si l'instructeur du centre équestre, c'est Guillaume Gouix qui le joue, ce centre équestre où s'échappe et se reconstruit aussi, Cassandre. On ne sait pas trop s'il lui parle de son cheval ou d'elle-même. tout ce qu'il lui dit pourrait s'appliquer à sa propre situation. On notera tout d'abord que ce n'est pas du tout la même mise en scène. Selon qu'on soit dans le manoir ou au centre équestre, dans le manoir c'est beaucoup plus découpé, les angles sont beaucoup plus baroques. Ici on est dans un filmage beaucoup plus classique et apaisé.
Oui, tout à fait. Pour moi, utiliser le cinéma, la technique cinématographique, tous les procédés filmiques qu'on peut utiliser pour être au service d'une histoire, au service de ce qu'on veut raconter. Donc effectivement, dans le manoir, on raconte un trouble, donc on a des plans très larges, très intimes, très intrusifs, très serrés, pardon, des plans très serrés. Et au centre équestre, on est beaucoup plus ouvert sur le ciel, sur la nature, sur l'air, en fait, et le silence. Il y a vraiment aussi une différence au centre équestre. Il y a l'espace du silence. Il y a l'espace de l'écoute, il y a l'espace de l'accueil des émotions, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, au manoir, il y a des logorées interminables des parents, une intrusion sonore permanente. Et donc, oui, le centre équestre, c'est un espace de reconstruction, d'écoute, de reconnexion à soi.
L'instructeur lui parle aussi de changer de perspective, de point de vue. On ne voit pas les mêmes choses quand on descend de son cheval. Et la question du point de vue, c'est aussi le vôtre sur une jeune fille inspirée de ce qui vous est arrivé, mais qui devient une jeune fille à la fois d'hier et d'aujourd'hui. Et il y a aussi le regard d'aujourd'hui, de la femme que vous êtes devenue sur cette histoire. Comment est-ce qu'on respecte le point de vue de cette jeune fille tout en ayant un regard qui a du recul?
Je sais pas trop comment répondre à votre question, mais en tout cas, le parcours que moi j'ai pu faire au niveau thérapeutique et comment j'ai pu mettre mes souvenirs au service d'un récit, toutes les lectures que j'ai pu lire, pour aussi comprendre que dans d'autres récits, je retrouvais des choses communes, en fait, par rapport à ce que j'avais vécu. Et puis tout l'univers cinématographique qui a nourri, moi, ma créativité. Et comment tout ça s'est organisé pour délivrer ce récit, ce témoignage et raconter l'histoire de cette Cassandre. Je crois que c'est une histoire universelle qui va toucher énormément de gens, en fait, qui peut résonner avec énormément de personnes. Donc l'idée d'être au plus proche de ce qu'elle ressent aussi, par la caméra, avec des caméras en top shot, ou d'être vraiment proche de ses sensations. Il y a une mise en scène, je crois, très organique, très sensorielle, et très immersive. Et donc vraiment de placer le spectateur au cœur de cette expérience, de sa trajectoire à elle, ce qu'elle va traverser,
oui,
elle.
Oui, tout en se posant toujours la question de ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, et surtout comment on le montre. Et des scènes d'inceste qui sont généralement au cinéma filmées, la caméra ne sait jamais trop quoi faire de ces scènes-là, se met un peu en retrait ou va adopter un point de vue qui n'est pas toujours le bon. Là, vous avez choisi un point de vue effectivement très sensoriel, où tout d'un coup, ce que subit cette jeune fille transforme le monde tout entier autour d'elle.
Oui, tout à fait. Quand on vit des chocs traumatiques, en fait, on peut avoir des distorsions spatio-temporelles, donc avoir un peu la vision qui se trouble, des sons qui deviennent hyper graves ou ralentis, etc. Donc on a joué avec ça, l'idée de cette caméra en top shot qui va filmer
en plongée, on va expliquer.
Oui, c'est ça, avec la caméra en haut qui filme le personnage en dehors de son corps, comme si elle se voyait en dehors de son corps. C'est aussi ce qu'on peut vivre dans des expériences de mort imminente, par exemple, et de jouer avec des infrabasses qui viennent chercher des trucs très très graves, très physiques, très sensoriels, ou des larcènes. De jouer aussi avec des ralentis qui vont raconter comment elle est fragmentée de l'intérieur, en fait. C'est l'idée d'être au plus proche de ses sensations par la forme, par les procédés filmiques qu'on utilise.
Et un des procédés, dissociation, là encore, c'est l'utilisation d'une marionnette qui est annoncée dès le début par un épouvantail qu'on voit régulièrement dans le champ et qui est manipulé par une Cassandre adulte, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette image qui s'est imposée ?
L'idée de raconter comment un corps qui est traumatisé, en choc traumatique, est vidé de sa substance et est paralysé. Et c'est un corps qui ne peut plus bouger, en fait. Et donc montrer cette petite marionnette avec un tissu qui est vide, avec un visage qui n'a pas d'yeux, pas de bouche, et qui en gros ne bouge pas, c'est montrer comment la dissociation se fait, comment l'état de sidération se est rendu visible par ça. Et effectivement, l'épouvantail dans le pré rappelle cette image-là d'un corps traumatisé. Il y a un psychiatre qui disait que ce qui se passe à l'intérieur d'un corps qui est sidéré, on va dire, c'est comme si on appuyait sur le frein et l'accélérateur d'une voiture, en fait, en même temps. Donc le moteur tourne à fond et en même temps la voiture est arrêtée, le corps est arrêté. Donc c'est raconter ça, ce court-circuit, quoi.
On pourrait aussi y voir une image du film lui-même, puisque c'est une Cassandre adulte qui manipule un objet artistique et qui a la distance nécessaire pour le faire. Vous aviez conscience que ça parlait de votre film aussi ?
Oui, bien sûr, c'est une sorte de mise en abîme du rapport aussi de l'artiste avec son œuvre, en fait. Comment un enfant, par exemple, quand il a vécu une scène avec sa maîtresse qu'il a disputée, il va jouer avec ses poupées, il va mettre en dehors de lui quelque chose et le regarder, et pour mieux l'intégrer, mieux le saisir, mieux le comprendre. Là, c'est un peu la même chose, c'est comment mettre au dehors de soi une histoire, des blessures et de raconter ça. Et donc effectivement, ce rapport de la création et de la sublimation, de la transcendance, je pense que vraiment le film est traversé par cette énergie-là, d'une résilience, d'une transcendance, d'un chemin vers la lumière.
Et il y a une distanciation aussi qui est vraiment quasiment brechtienne, qui intervient bien avant ces moments de marionnette, puisque parfois on s'adresse à la caméra, il y a une voix off qui commente ce qui arrive. Là encore, pourquoi ce choix ?
Pour moi, c'était vraiment l'idée de mettre la forme au service du fond, en fait. Comme disait très bien Victor Hugo, la forme, c'est le fond mené à la surface. Cette idée de l'inceste, c'est une infraction, c'est une effraction. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intrusion. Et donc, jouer avec le code du cinéma de rompre le quatrième mur, c'est aller percer la bulle du spectateur, c'est entrer dans son intimité. Et donc, quand tous les personnages principaux font ces regards caméra, ils ont une adresse directe au spectateur. Et ça m'intéresse de jouer avec ça, de percer la bulle du spectateur.
Il y a aussi un format, c'est assez original dans votre film, qui s'élargit au fur et à mesure, mais sans que le spectateur puisse vraiment mettre des mots dessus. On commence par le format vraiment carré du Super 8, on finit dans le plan très large du 1,85. Là encore, c'était une façon de donner des sensations au spectateur sans qu'il arrive à mettre des mots dessus.
Oui, tout à fait. Encore une fois, c'était l'idée d'ouvrir les horizons. Je pense que quand on entre dans le spectateur, dans l'histoire, comme Cassandre, on a une vision rétrécie de cette famille, de ce problème de société et de cette famille en particulier, et qu'au fur et à mesure de l'histoire, le personnage son horizon va s'ouvrir et le spectateur va avoir une vision plus large de ces climats dysfonctionnels. C'est un plan qui m'a été inspiré par Xavier Dolan dans Mommy. On voit l'acteur principal sur un plan, voilà, un
chez
geste.
Chez lui, c'était beaucoup plus explicite.
Voilà, lui, c'est en une seconde, on voit vraiment l'écran qui s'ouvre. Moi, j'avais envie de jouer avec l'inconscient, en fait, que ça soit pas perceptible, mais que ça impacte quand même l'inconscient des spectateurs.
Comment vous avez trouvé le mouvement général du film? Je crois que j'ai lu quelque part, vous parliez, et c'est très joli, que son mouvement général, c'était comme un petit galop de cheval. Vous avez pensé à cette structure?
Tout à fait. Dès le début, même avant, quand on parlait avec la compositrice Delphine Malocena, je parlais de ça, de ce petit cheval au galop, de ce petit rythme cyclique ou du battement de cœur. C'est vraiment l'énergie de la vie qui nous emmène et qui est plus forte que tout. Et cette idée que ce film est, je pense, traversé vraiment par ça, en fait.
Pour revenir à cette marionnette, je vais un peu divulgâcher la fin du film, mais ça finit par une caresse. Une caresse de la marionnette sur le visage de Cassandre adulte. Et on a le sentiment que ce petit galop est là pour nous amener à cette scène, précisément.
Oui, tout le film, on va dire, tend vers cette scène. Disons que c'est comme si la marionnette s'émancipait de sa condition, devenait vivante, reprenait vie et console, en fait, l'adulte Cassandre devenu adulte. Donc il y a comme une reconnaissance, une reconnexion, on va dire, entre l'enfant intérieur blessé ou la petite fille qu'elle a été et la femme qu'elle est devenue. Et cette idée de réconciliation, de pardon, et voilà, c'est l'idée d'une tendresse, d'une empathie.
Voilà, il y a toujours une lumière au bout du film, et pas seulement celle du projecteur. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me. Yeah. Let your blessings from above fill me with precious love. There's a light in my life shining over me. Lord, sometimes I sit and I wonder why strange things happen to me. Then again I feel my friends are gone, yeah. But if I put my trust in Jesus, the burdens will light up. Be my shelter, be my comfort, be my guide, yeah. I was blind, but now I see. Jesus came and he rescued me. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me, yeah. Let your blessing from above fill me with thy precious love. There's a light in my life shining over me. C'est Shirley Hanley qui chantait There's a Light, on l'entend dans votre film, Hélène Merlin, ainsi que l'excellente musique originale signée Delphine Malocena. Cassandre, c'est en salle depuis mercredi. Merci d'être venu dans ce studio. Vous écoutez France Culture et c'est une autre famille qui rentre dans notre plan large, une famille de cinéma. D'abord, celle que s'est constituée au fil des années depuis 55 ans sur les grands et petits écrans l'anglais Mike Lee. Et faire un film, pour lui, ça part souvent de l'envie, simplement de passer du temps avec des gens qu'il aime, comme la merveilleuse actrices Marianne Jean-Baptiste, si lumineuse il y a 30 ans dans Secrets et mensonges, et une de ses consœurs aussi, la non moins merveilleuse Michelle Austin. Toutes deux avaient joué déjà des sœurs pour lui au théâtre, c'était il y a 40 ans dans It's a Great Big Shame, et ce sont donc tout naturellement deux sœurs à nouveau qui ont émergé de cette pratique de création si singulière qui est celle de Mike Leigh. Au théâtre, on appellerait ça une écriture de plateau. L'anglais en fut d'ailleurs un précurseur sur les scènes britanniques. Les acteurs, les actrices se réunissent avec le réalisateur, on invente des personnages ensemble à partir de personnes qu'on connaît. Les dialogues s'écrivent à partir d'improvisations sur les lieux du tournage à venir, et voici que naissent Pansy, perpétuellement en colère, qui ne se réveille en poussant un cri que pour mieux vituperer sur son entourage familial et urbain, le front baissé comme un taureau dans l'arène. Et puis Chantelle, sa sœur, coiffeuse de son métier, tout son opposé, tant elle oppose effectivement à tout une joie de vivre tellement radicale qu'elle en serait presque inquiétante. Le film Un grand Mike Leigh s'appelle en français Deux sœurs, en anglais Hard Truth, et c'est sur ce titre que nous avons commencé notre rencontre avec lui, sur la terrasse de son distributeur parisien. En interview, l'homme est joueur, voire taquin. Il n'en est pas moins, sans conteste, le plus grand cinéaste britannique en activité.
Must be sweating under there, stinking. That's cruelty to animals, that is. Putting it under all that plastic. I've got a mind to report him to the NSPCG or whatever they call them. And her over there with that fat baby. Cold, 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 and she's walking up and down the street with nothing but a big pink bow on its bald head so everybody can tell it's a girl, like I care. Parading it around in the little outfit, not dressed for the weather, nah, with pockets. What's a baby got pockets for? What's it gonna keep in its pocket? A knife? It's ridiculous.
It's the RSPCA, man.
What?
The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
Oh, no, I'm not stupid. Anyway, when are we gonna replace that brought down sofa in there? Eh?
Bonjour Mike Leigh.
Bonjour.
Je suis curieux de savoir comment vous viennent les titres de vos films. Ce titre français, c'est Deux sœurs, mais en anglais, ça s'appelle Hard Truth. On pourrait dire vérité cruelle. Harold Manning ne va pas me démentir.
Tout à fait.
Il y a des échos comme ça. Évidemment, quand on entend parler de vérité, on se dit qu'un de vos films s'appelait Secrets et mensonges, il y a 30 ans.
The titles, I give my films the titles the very last thing.
Je nomme mes films au tout dernier moment, le plus tard possible. Je procrastine à fond. Il y a des occasions où du générique, le type qui fait le générique, eh bien, il laisse une case blanche puisqu'il n'y a pas de truc. Hard Truth, c'est vraiment le titre juste, dure vérité. Et c'est un titre qui n'est pas trop spécifique. Deux sœurs, ce n'est pas le titre de film, c'est le titre français. Et je n'ai pas grand-chose à en dire parce que ce n'est pas vraiment dans l'esprit de ce que j'aurais choisi comme titre.
Mais c'est comme si par ce titre qui arrive à la fin, donc vous nous dites Mike Leigh, la vérité du film surgissait. C'est un peu le même processus que vous avez quand vous travaillez avec vos acteurs, actrices, pour créer votre film. Est-ce qu'on peut comparer ça, la manière dont le film arrive et dont le titre arrive à la fin?
Oui, je pense que c'est le cas. Mais, sauf votre respect, c'est quand même une question très intello. C'est une question théorique. Naturellement, ça va pareil et que la vérité m'intéresse. Et la vérité des gens, des humains, la façon dont nous sommes. Mais que le film s'appelle Vérité, c'est plutôt une question de la vérité des gens par rapport à entre eux et par rapport à eux-mêmes. Plutôt que de vraiment, quelque part, montrer la vérité. C'est une vérité qui est à eux.
Vous dites que ma question est intellectuelle. Est-ce que vous diriez que votre travail est organique ?
Enfin,
si jamais on accepte, on dit que l'intellectualisme et l'organique seraient opposés. Mais ce n'est pas intellectuel dans le sens où ça vient... Ça ne vient pas d'une logique intellectuelle. Et donc, je dirais que mes films, ils sont subjectifs, émotionnels. mais j'espère que mes films sont complexes. Et on pourrait les décrire de plein de façons. Et j'imagine qu'on peut dire qu'on peut analyser mes films, on peut les analyser intellectuellement si on le souhaite.
Et nous n'y manquerons pas, Mike Lee. En tout cas, est-ce qu'on peut revenir justement aux origines de ce film en particulier, mais de votre désir de cinéma en général? Est-ce que ça vient d'abord de l'envie de passer du temps avec des gens?
Ah oui, c'est complètement le cas, bien sûr.
That's true, but it's also
c'est vrai, mais c'est important aussi. Et depuis le début, ma motivation, mon instinct, mon impulsion, c'est d'attraper, de fixer la vie, de prendre la vraie vie et de la partager avec un public, sur un écran. Ce sont des choses complexes. Je ne fais pas des films sur le cinéma. Je ne fais pas de films qui sont des références à d'autres films. Je ne pense à aucun autre film quand je tourne. Cependant, j'aime et je suis amoureux du cinéma. Je suis passionné par les films et par l'expérience, le processus de faire des films. Ce sont des choses complexes et qui sont liées les unes avec les autres.
Mais pour capturer la vie, il ne suffit évidemment pas de planter sa caméra quelque part. Ça demande beaucoup de travail et un travail à la fois de surgissement, de beaucoup d'histoires et après de raffinement. Comment ça se passe très concrètement dans votre travail, notamment avec les acteurs et les actrices?
I will answer that question. Especially with the actors, but it's
je dirais
as
que
much, as
c'est en particulier avec les comédiens, mais c'est tout aussi important avec le directeur de la photo et tous mes techniciens.
It's about exploring.
Il s'agit
it's
d'explorer, de collaboration, sharing, de partager des idées,
creating,
de créer
worlds, creating
un univers, des personnages, des situations,
letting them grow,
de laisser s'épanouir, de voir ce qui va se passer, de les diriger, de leur mettre une forme, de les faire résonner avec d'autres choses, avec mon point de vue sur la vie, avec mon expérience. Je fais des recherches dans plein de domaines pour que les choses soient claires. Puis je plonge mes films dans le vrai air. Je les fais respirer. Et effectivement, j'essaie de trouver une forme ensuite, de distiller les choses pour en faire une action dramaturgique.
C'est déjà compliqué de créer des personnages. Je pense que c'est encore plus compliqué de créer une famille à laquelle le spectateur va croire. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Et comment est-ce qu'on fait une famille qui tient à l'écran?
À un certain point, la réponse à cette question est un secret de marque déposée. Il y a des choses qu'on fait pour explorer les relations entre les personnages qui sont vraiment tellement ésotériques que je ne peux pas vraiment en parler en détail. Mais il s'agit d'un processus de recherche organique, naturelle, dans les relations humaines. Des relations humaines vraies, des tensions.
The dynamics of
de la dynamique
people, and the dramatic potential
et du potentiel dramatique qui existe dans les relations entre les gens, y compris dans les familles.
J'ai le sentiment que, sans rentrer complètement dans vos secrets de fabrication, que ça marche aussi par soustraction, c'est-à-dire que ce que vous ne montrez pas est aussi important que ce que vous montrez. Notamment, il y a ce personnage dont on parle beaucoup mais qu'on ne voit jamais, je ne dirai pas plus pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, mais il fallait ne pas la montrer, il me semble, Mike Lee.
C'était peut-être pas essentiel. Elle n'est pas là parce qu'elle est morte. Mais on a tellement discuté avec les personnages, avec les comédiens, et on a remonté toutes les années de vie commune avant qu'elle meure, puisqu'elle est morte. Personne ne l'interprète, soit, mais c'est un vrai personnage du film. On l'a inventé. Elle était complètement réelle pour nous. Dans nos conversations, de construction des personnages, elle était complètement réelle. Je ne l'ai pas jouée moi-même, mais j'étais toujours capable de dire « elle aurait fait ci, elle a fait ça ». Je savais qu'à la fin, j'allais la tuer. Et je l'ai fait. Et qu'à la fin, qu'elle ne serait pas un personnage du film. Parce qu'il n'y avait pas d'actrice pour l'interpréter, de toute façon.
Mais
ça, c'est une façon normale de construire un récit. Les gens sont partis, ils ne sont pas là, c'est normal. Mais on a vraiment fait qu'elle meure à un moment qui était nécessaire, effectivement, et qui n'est pas dans le film.
22-year-old man and he's still eating peanut butter and jam sandwiches. I talk to him until I'm tired. I say, Moses, what are you doing with your life? Where do you see yourself in 25 years' time? I'm sick of it.
Do you want me to talk to him?
And say what?
I don't know. Just see if I can help him.
What, you're trying to insinuate yourself into my family?
Insinuate how?
You wouldn't like it if I talked to your girls like that.
And said what?
Why are you going out exposing your belly to the world? What are you doing dressed up in a squeeze-up, tie-top, yoga pants and you're not even in the gym? You wouldn't like it. You wouldn't like it at all. Some sisters are close, you know. Some sisters confide in each other.
You can confide in me.
Nah, if I don't call you, you don't call me.
I call you.
Nah, I have to call you and say, oh, Chantelle, my hair needs doing. Oh, Chantelle, my back is hurting. Can you pick me up a couple of things from Kilburn?
I call you.
Hey, put down them scissors. You're getting aggressive.
Vous avez un goût pour les personnages qui ont un rapport... je dirais excessif à la vie, en tout cas qui sont soit trop gentils, trop joyeux comme Be Happy, Happy Go Lucky, ou trop en colère peut-être comme ici, ou trop hargneux comme dans Naked. Quel plaisir cinématographique vous avez à animer de tels personnages, Mike Lee?
Everybody is excessive.
Mais tout le monde est excessif.
In one way or another.
D'une façon ou d'une autre.
I mean, excess. You can only measure it against something else.
L'excès, on peut même l'imaginer contre autre chose. Je vous défie de me montrer quelqu'un, notre ami, y compris notre technicienne ici qui enregistre, qui n'est pas excessif. Tout le monde l'est. Nous sommes tous idiosyncratiques, des individus. On est une combinaison, un mélange de plein d'éléments. On est des types, on n'est pas des stéréotypes. En d'autres mots, pour essayer de répondre différemment, si j'accepte le prémisse de votre question, ça voudrait peut-être dire que mes personnages ne sont pas naturels, exagérés, ce que je rejetterais. Je ne dis pas que vous dites ça, mais ça serait une interprétation de votre question. Je rejetterais ça, vraiment. Parce que tout le monde est étrange, bizarre, asocial, et vous-même, vous l'êtes.
Mais peut-être que vos personnages se permettent ce que nous, nous n'osons pas nous permettre, et c'est peut-être le plaisir qu'on a aussi à voir ces films, et qui rend votre personnage de Pansy à la fois terriblement drôle et terriblement triste en même temps.
But there are people like that.
Mais il y a des gens qui sont comme ça.
Life is comic and tragic.
La vie est comique et tragique.
And there are people who are like that, and they're not characters in movies.
Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, alors que ce ne sont pas des personnages de cinéma.
That's the starting point for me.
Ça, c'est mon point de départ. Ça a toujours été.
Vos films, et ce n'est pas le premier à être comme ça, je pense à Another Year, par exemple, on a souvent le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Vous prenez un moment de la vie des personnages. Alors, peut-être que c'est au spectateur de construire ce qu'il y a avant ou après, mais là, c'est un choix cinématographique très fort. Je crois que ce que vous dites est exact. Mais si jamais il n'y avait que ça, ce seraient des films qui n'auraient aucun sens, qui seraient très ennuyeux. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de ces films, Another Year, ne fait pas exception à ceci. C'est qu'il y a énormément d'événements dans le film. Mais comme elles se passent dans un contexte de réalité, d'une vie qui continue, qui continuera, c'est vrai aussi.
Mais les deux choses, c'est important de ne pas confondre la notion de l'artefact, de l'imitation, avec le monde que le réel, très réaliste, que je décris.
Alors, la particularité de ce film, Mike Lee, c'est aussi qu'il se passe entièrement dans un milieu culturel, qui est le milieu afro-caribéen en Angleterre, sans que ce ne soit jamais un sujet du film. Pourquoi ce choix? On imagine que d'autres réalisateurs auraient appuyé ça, on aurait fait un sujet. Vous, ce n'est pas le cas.
Well, that's deliberate.
Alors ça, c'est très volontaire. C'est très important, finalement, parce que j'ai tourné avec des acteurs et des personnages noirs depuis longtemps, de tous les genres, de tous les, dans toutes les échelles de la société. Bon. C'est très volontaire de faire un film qui ne soit pas plein de ces clichés sur les Noirs. Parce que la vie des Noirs, ce n'est pas seulement la drogue, le racisme, la police. Je ne dis pas que ça n'existe pas, que le racisme, il est traité dans le film. Hein, il y en a, subtilement, j'espère.
Oui,
pour moi, c'était délibéré de dire, regardons des gens comme vous, moi, tout le monde. Ils sont Noirs. Et on a traité des détails culturels de façon très spécifiquement. Hein. Vraiment, c'est une culture jamaïcaine. Mais en même temps, les problèmes qui traitaient sont universels.
Et puis, c'est aussi un film qui est très solaire. J'étais très frappé par la lumière de ce film. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons de production, parce que vous avez tourné l'été, ou est-ce que là encore, c'était un choix délibéré, Mike Lee?
Alors, on a tourné en été. Bon, c'est comme ça. Et effectivement, pendant les 6 semaines où on a tourné, il n'a jamais plu. Et ce qui est très étrange pour, et très inhabituel pour la Grande-Bretagne. Mais c'était dans l'esprit du film. C'était juste. Et je pense que le film bénéficie de ça, de ces circonstances.
Absolument. Le film en bénéficie totalement. Merci beaucoup, Mike Lee.
Thank you.
C'est Marianne Jean-Baptiste elle-même qui, en 1997, avait composé et interprété la bande musicale d'un autre film de Mike Leigh, Deux filles d'aujourd'hui. Deux sœurs est sorti en salle ce mercredi. Merci à Harold Manning d'avoir traduit les propos du cinéaste. On espère qu'un avisé distributeur aura la bonne idée de sortir en salle française un jour son film précédent, toujours inédit, depuis 2018, Peterloo. En attendant, vous pouvez voir sur la Cinéthèque 5 de ses films, son tout premier, Bleak Moments, High Hopes et Naked, Secrets et mensonges, où vous retrouverez Marianne Jean-Baptiste, et All or Nothing. Vous pourrez aussi, sur la Cinéthèque, la Cinémathèque en ligne des cinéastes, découvrir la carte blanche concoctée par Guillaume Brac et la liste des 50 films préférés d'Andreas Dresen. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est l'heure d'ouvrir le journal du cinéma avec quelques autres films sur vos écrans cette semaine. Il y a encore question, Hélène Merlin, de chevaux, de jeunesse et d'exil.
Ça fait combien de temps que t'es pas monté sur un cheval ?
2 ou 3 ans.
Tu te fous de ma gueule ? Je t'ai trompé d'adresse. Ici, c'est pas l'armée du salut.
La rage que t'as à l'intérieur, garde-la pour la piste.
En plus de tout ça, faut que je fasse genre le deuil des meilleures personnes que j'ai rencontrées de toute ma vie. Je te dis un peu mal, mais tranquille.
Sciences humaines appliquées, Jeanne, je crois moi que c'est Babosland aussi, non? Ah, mais ça me rassure.
Lloyd, Lloyd, you lied about your school last night.
Au revoir, tu m'y donnes.
Non, au revoir. Tu m'y donnes.
لازم نعلم الشعب الطيران.
Très vite troublé par une image, mais ça passe vite. Et je crois que c'est moi.
Et je pense à cette image-là, celle d'un exilé d'aujourd'hui, qu'on renvoie, attaché, bâillonné, par un masque qui ressemble à celui de la jetée.
Sur vos écrans cette semaine, un jeune délinquant sous bracelet électronique qui se fait embaucher comme garçon d'écurie avec le secret espoir de devenir jockey et qui découvre chemin faisant les dessous saumâtres du monde des courses hippiques. C'est Lads, premier long métrage de Julien Ménanteau qui vaut plus pour les prouesses équestres du cascadeur et néo-acteur Marco Louraski, fils du mythique dresseur du cinéma français Mario Louraski, que pour la malhabile, on dira, dramatisation du récit. Des jeunes ouvriers surexploité dans les ateliers textiles de la région de Shanghai. Ce n'est pas Jeunesse le printemps de Wang Bing, mais Jeunesse les tourments, deuxième volet de la vaste trilogie documentaire, une sorte d'auto-remake cauchemardesque du premier, où la machine se grippe, les relations se tendent, les salaires disparaissent avec les patrons malhonnêtes, et où aussi naissent conscience politique et de classe. C'est toujours aussi remarquable. Jeunesse toujours des jeunes filles à l'aube de changements majeurs dans leur vie, au sud et au nord de la France, captées par la caméra sensible et douce de Guillaume Brac. Ce sont deux films pour le prix d'un. Ce n'est qu'un au revoir et un pincement au cœur. Côté exil, celui des Afghans en Iran, de l'invasion américaine en 2001, au retour des talibans au pouvoir 20 ans plus tard, c'est en 3 volets et autant de genres cinématographiques, le bel et poétique Au pays de nos frères, premier film de 2 jeunes cinéastes iraniens, Raha Amir Fazli et Alireza Rassemi. Très influencé par le cinéma iranien de l'enfance, façon Où est la maison de mon ami de Kiarostami ou le ballon blanc de Jafar Panahi. Vous avez encore une traversée des territoires palestiniens, de Bethléem en Cisjordanie à Haïfa en Israël, sur les pas d'un enfant qui cherche son pigeon. C'est le beau songe du cinéaste palestinien Rachid Macharawi, tourné, faut-il le préciser, avant le 7 octobre 2023. Et puis enfin, retour à l'enfance encore, celle de son personnage et de sa réalisatrice, et à un film mythique de la modernité française, c'est le 5e plan de La Jetée. La Jetée, c'est celle de Chris Marker. Formidable nouveau film de Dominique Cabrera. On aura certainement l'occasion d'en reparler avec elle quand le film sortira sur grand écran. Ce sera à l'automne. En attendant, il est visible jusqu'au 2 novembre sur arte.fr. À vous signaler encore, côté festival, la 47e édition du Festival International international du film de femmes de Créteil, format un peu réduit cette année pour cause de lâchage financier par le département du Val-de-Marne, avec Isabelle Carré en invité d'honneur et une rencontre demain à 18h au MAC de Créteil avec notre invité d'il y a 3 semaines pour ses 6 beaux loups. C'est Isabelle Prime et ce sera jusqu'au 12 avril le festival du film de femmes de Créteil. Côté jeune cinéma, toujours jusqu'au 12 avril et à partir du 7, le 22e festival du moyen-métrage de Brive permettra dans sa compétition de découvrir notamment le nouveau film de notre invité d'il y a un mois, Marie Lozier, consacré cette fois au collectif mythique The Residents. Ça s'appelle Barking in the Dark. Et puis enfin, jeune et moins jeune cinéma, toujours la 12e édition de 7e Lune, le festival international des jeunes cinéastes, se déroulera du 10 au 15 avril, comme toujours au cinéma Le Méliès à Montreuil. Robert Guédiguian et Albert Serra y proposeront une carte blanche et le festival fera aussi un focus sur l'Institut Kanoun en Iran où débutèrent avec des films sur l'enfance, des Kiarostami et autres, on en parlait il y a un instant. Ceci annoncé, retour en famille à l'heure du petit déjeuner alors qu'un affreux meurtre au couteau a été perpétré dans la nuit et le voisinage.
I couldn't look back in the face after what happened last night. And under our very noses. Mind you, identifying myself is altogether the police's fault. What I mean is they have to wink at some things. I mean, it's one thing to buy chocolates out of ours, but it's quite another to stick a knife into a gentleman. I must say I feel the same way about that, too. A good, clean, honest whack over the head with a brick is one thing. There's something British about that. But knives. No, knives is not right. I must say that's what I think and that's what I feel. Whatever the provocation, I could never use a knife. Now, mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean, any knife. I mean, if you use a pen knife, or a pocket knife, they wouldn't belong to you. Or a butcher's knife.
Alice, cut us a bit of bread, will you?
A knife. What's that of a knife? A knife. A knife is a dangerous thing. If you're careful of a knife, you come up against a knife. I mean, in Chelsea, you mustn't use a knife!
Après que la fille a tué le peintre qui l'a amené chez lui et tenté de la violer, raconte Alfred Hitchcock à François Truffaut dans les fameux entretiens qui ont donné le mythique Hitchbook, elle est de retour chez elle et il y a une scène de petit déjeuner avec sa famille autour de la table. Une voisine qui se trouve là, très bavarde, discute du meurtre qui vient d'être annoncé et elle dit « Quelque chose de terrible de tuer un homme dans le dos avec un couteau. Si c'était moi qui l'avais tué, je l'aurais frappé sur la tête avec une brique, mais je ne me serais pas servi d'un couteau. » Et le dialogue continue, la fille n'écoute même plus et le son devient une bouillie sonore très vague, confuse, avec seulement le mot « couteau » qu'on entend très distinctement et qui revient souvent « couteau, couteau ». Et soudain, la fille entend distinctement la voix de son père. « Passe-moi le couteau à pain, s'il te plaît, Alice. » Et Alice doit prendre dans sa main le couteau semblable à celui avec lequel elle vient de commettre le meurtre. Et pendant ce temps, les autres continuent à parler du crime. « Voilà ma première expérience sonore », conclut-il. Et voilà aussi, en 1929, le tout premier film parlant britannique, c'est « Chantage » d'Alfred Hitchcock, donc, dont il existe aussi une version muette, puisqu'on est précisément au passage du muet au parlant. Et c'est à cheval sur ces deux époques que se situent les 10 films somptueusement restaurés et ressortis en salle, signés de celui qui n'est pas encore le maître du suspense, mais qui, dans ses films produits par la British International Pictures, fait fleurir déjà nombre de ses grands thèmes, Mathieu Macherey.
Oui, Antoine, c'est vrai, c'est passionnant parce qu'on aperçoit là un Hitchcock qui déjà se ressemble et ne se ressemble pas. C'est-à-dire qui est déjà lui-même et pourtant pas complètement. Les débuts du cinéaste britannique sont en effet marqué par un éclectisme assez large que la suite de sa carrière, et surtout son passage aux États-Unis au début des années 40, tendra à resserrer autour du motif criminel. On trouvera ici, dans cet ensemble de 10 films, toutes sortes de travaux de commande, notamment des adaptations de pièces de théâtre comme Laquelle des Trois ou Junon et Le Pan, des romances contrariées, etc. Toute une matière qui nous apprend que Hitchcock n'a pas toujours eu l'initiative des sujets qu'il a abordés. Il y a aussi des films totalement inclassables, comme le formidable À l'Est de Shanghai, Rich and Strange en version originale, qui date de 1931. C'est une sorte de travelogue d'une liberté folle et qui change quasiment de peau à chaque scène. Le film est si étonnant qu'on peut s'y arrêter. Tout commence par une symphonie urbaine dans le style muet des années 20. Le film est parlant et évidemment, on y découvre un couple qui s'ennuie, qui rêve d'aventure, qui se lance dans une croisière vers l'Orient. Et très vite, la traversée bascule dans un quadrille amoureux, dans un récit d'aventure exotique, dans un film catastrophe et puis presque aussi une comédie de remariage. La traversée en mer, c'est surtout la métaphore de la vie conjugale qui constitue le principal fil rouge de cet ensemble de 10 films. Qu'est-ce qui intéresse Hitchcock dans le motif du mariage? Outre, évidemment, un reflet de sa relation créatrice avec sa femme et collaboratrice Alma Reville, qui écrivait les scénarios et dont on sait aujourd'hui qu'elle a eu évidemment une importance décisive sur l'œuvre d'Alfred Hitchcock. Le mariage, c'est ce lieu où on peut observer la divergence entre l'amour et le désir, qui n'ont pas la même vitesse de croisière pour filer la métaphore précédente. C'est une dissension qui vaut plus largement, et c'est là que surgit un des grands thèmes hitchcockiens, pour l'articulation entre le réel et le fantasme, entre l'amour et le désir, c'est ça qui se joue. Et les héros hitchcockiens cherchent toujours à faire coïncider le réel et leur fantasme, même si ce sont des forces contraires qui s'écartent. Dans Le Masque de Cuir, 1927, The Ring en version originale, le plus ancien film du lot, un jeune boxeur amateur tente de reconquérir sa femme, qui n'a rien contre lui, mais qui est irrésistiblement attirée par le champion en titre de la discipline. Le film superpose très habilement la valse hésitation du triangle amoureux avec la success story du championnat, notamment à l'occasion d'un climax formidable qui voit les deux rivaux épris de la même femme s'affronter également en tant que détenteur du titre et challenger. La métaphore, elle est limpide, le mariage, bon, bah, c'est un sport de combat. Hitchcock ici invente une manière incroyablement dynamique de filmer la boxe, caméra sur le ring, au cœur du face-à-face entre les combattants, plan subjectif au moment du chaos qui brouille l'image, montage alterné entre les coups porté sur le ring et les réactions dans la salle, gamme étendue d'une grande variation d'échelle qui va du plan d'ensemble sur le Royal Albert Hall grâce à un système de maquettes jusqu'au visage serré des spectateurs, c'est assez impressionnant de maîtrise pour un film d'un jeune débutant. Dans The Manx Man par exemple, on prend le même triangle amoureux et on recommence mais cette fois dans un petit village de pêcheurs de l'île de Man. Hitchcock fait un usage sidérant des décors naturels, c'est tourné non pas sur place mais dans un village des Cornouailles. Rue noueuse de la commune, ravin à pic des falaises de rochers, retrouvailles rêveuses dans une forêt qui rappelle la peinture anglaise du XVIIIe siècle, tout cela forme le relief où viennent rebondir et s'élancer les passions dans toutes les directions de l'espace. C'est un décor propre à susciter ce qu'on connaît bien chez Hitchcock, c'est-à-dire le fameux effet de vertige. L'art hitchcockien trouve une formulation définitive avec Chantage, Blackmail, en 1929, qui est un chef-d'œuvre de la période, à la charnière du muet et du parlant, et dont il existe à ce titre deux versions, hein, comme on l'a dit, l'une muette, l'une parlante. Et elles sont très intéressantes à comparer. C'est bien de la versatilité du désir et de l'amour que le film part, puisqu'en effet, sa jeune héroïne, elle est entre deux hommes, son fiancé et un inconnu qu'elle suit dans son atelier. Le meurtre, il est ici très lié au sens du détail hitchcockien. C'est lui qui l'emporte dans cette magnifique photographie, encore expressionniste hein, à l'époque, mais photographie en noir et blanc, dont la restauration ne fait qu'augmenter la dentelle et cette découpe incroyablement fine. Les innocents et les coupables, chez Hitchcock, ils ont tout autant les mains sales. Et le monde qui les entoure, c'est un monde de détails, un monde d'objets complices et traîtres qui semblent ligués contre eux, à la fois pour leur rappeler leur crime et pour le faire apparaître au grand jour. Couteau à pain, bras tendu d'un SDF, gants oubliés sur la scène du crime, un tableau accusateur, tout le monde matériel qui s'assemble autour de la pauvre Alice crie sa culpabilité sur tous les toits. Et dans une scène stupéfiante, celle qu'on a entendue, Hitchcock fait un usage complètement novateur du son, hein, en répétant comme ça avec une sorte de distorsion sonore le mot « knife » qui fait sursauter l'héroïne. Et dans la version muette, c'est ça qui est absolument passionnant, c'est l'irruption d'un carton qui affiche le mot en grand et qui provoque la même terreur. Et donc, par-dessus cette frontière qui sépare le muet du parlant, Hitchcock n'avait déjà pas son pareil pour transcrire les affects au cœur du monde matériel.
Merci Mathieu Macheret. Hitchcock en 10 films aux origines du maître du suspense. C'est en salle depuis mercredi et en coffret Blu-ray le 15 avril. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Johanna Gabritsch, Grégory Wallon et Nicolas Delmas. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.